RCF.
Amis auditeurs, auditrices de RCF et de l'émission La vie militaire dans le Cher et le Berry, dans le cadre du Berry se raconte avec Agora Défense. Bonjour, nous retrouvons aujourd'hui M. Xavier Laurent, directeur des archives départementales du Cher et directeur du Musée de la Résistance. Cher monsieur, bonjour.
Bonjour.
Et encore merci d'être venu sur notre antenne. Vous êtes archive départementale. Quel est votre lien avec les archives municipales, nationales? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu le fonctionnement? Est-ce qu'il existe aussi des archives régionales?
Alors oui, effectivement, il y a trois niveaux principaux que vous avez énoncés de services d'archives. Donc il y a les archives nationales. Donc leur rôle, c'est de collecter les archives de l'État. De l'État, les ministères, l'administration centrale siégeant à Paris principalement de la France. Ensuite, il y a les archives départementales, donc dont le rayon d'action, c'est le département, donc les archives des préfectures, des conseils départementaux, de toutes les administrations qui sont installées dans le département. Et puis ensuite, il y a les archives municipales qui existent dans les villes principales, Donc pour le Cher, vous avez un service d'archives municipales à Bourges, à Vierzon et à Saint-Amand. Il y en a trois. Alors, les archives municipales, leur rôle, c'est de collecter les documents qui émanent des mairies et de tous leurs satellites. Ces trois niveaux d'archives existent sous le magistère du ministère de la Culture, Notre administration centrale de référence, celle qui nous donne des conseils pour exercer notre métier, c'est le service interministériel des archives de France, ça s'appelle comme ça, et c'est au ministère de la Culture. Donc tous ensemble, on travaille nécessairement dans la même direction, parce que nos sources, par exemple, entre archives départementales et archives nationales, elles se répondent. Il y a à Paris aussi, dans les ministères, on traite aussi de la vie dans le Cher, il y a des répercussions de l'un à l'autre. Et puis, avec les archives municipales, on a des terrains qui sont contigus, donc forcément, on travaille ensemble.
Savez-vous qu'il existe aussi des archives à Bourges-Plus?
Oui, tout à fait. Le service municipal est en fait municipal et communautaire à Bourges,
voilà.
Et les fonctionnaires qui y travaillent sont des fonctionnaires de Bourges Plus. Et c'est un beau service.
Oui, avec un jeune...
Avec un jeune responsable qui s'appelle Florian Giraud.
Florian Giraud qui est excessivement dynamique.
Tout à fait. On a beaucoup de travaux en commun. On se forme ensemble aussi. On est vraiment complémentaires et il y a beaucoup d'actions qui sont menées par lui et ses équipes, notamment autour des quartiers nord où le service est installé.
Oui, tout à fait. Très intéressant, je trouve. Et très pédagogue. Alors justement, les archives départementales, si nous revenons à votre précaré, sont-elles des archives de proximité?
Oui, on peut dire que ce sont des archives de proximité par rapport aux archives, qu'elles soient nationales ou les archives. On n'a pas dit aussi que le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères avaient une certaine autonomie de gestion.
Oui.
Donc, ont leur propre organisation finalement, un peu indépendante du ministère de la Culture, leur propre gros dépôt d'archives à la Courneuve pour le ministère des Affaires étrangères, à Vincennes pour le ministère de la Défense.
C'est-à-dire qu'il y a des archives spécifiques pour la Défense?
Oui.
Ah d'accord, très bien.
Oui, il y a des archives spécifiques pour la Défense, et ce qui fait par exemple que la base d'Avord, par exemple, ne verse pas ses archives aux archives départementales. Elles sont prises en charge par le ministère de la Défense dans des bâtiments spéciaux affectés aux archives de la Défense. C'est pareil pour la DGA TT à Bourges. Les archives ne viennent pas aux archives départementales, mais à Châtellerault, où se trouve un centre des archives de l'armement qui dépend du ministère de la Défense. Cette petite précision est utile dans notre département.
Qui est
marqué aussi par le fait militaire, je pense qu'il faut le dire. Voilà. Alors, archives de proximité pour les archives départementales,
Oui.
Oui, je pense que c'est le cas, puisque on est vraiment ouvert sur notre environnement immédiat. C'est un lieu où aussi on essaie de déposer la mémoire du territoire au plus près des habitants. Un particulier qui est détenteur d'archives qui concernent le Cher peut très bien venir nous voir. Et ensemble, on déterminera si ces archives ont vocation à venir aux archives départementales ou à être copiées en tout et partie parce qu'elles éclairent l'histoire du territoire.
Justement, vous avez anticipé ma prochaine question. Un simple citoyen peut-il déposer ses archives de famille ? Y a-t-il un intérêt ?
Alors, souvent, il y a un intérêt et donc il faut venir les présenter aux archives départementales. Moi, je me désole souvent d'apprendre après coup qu'une maison a été vidée et que se trouvaient beaucoup de greniers, beaucoup de papiers qui ont été mis purement et simplement à la poubelle. J'aimerais bien que le réflexe vienne finalement de proposer ces papiers aux archives départementales parce que sur beaucoup de secteurs d'activité, les archives que nous avons et qui procèdent des administrations ne font pas toute la lumière. Par exemple, les archives d'un commerçant, les archives d'un homme politique, les archives d'un simple particulier qui a aussi un engagement dans les guerres, etc. Tout ça peut être intéressant pour nous.
Moi, j'ai un exemple très précis. J'ai retrouvé dans les archives familiales tous les cahiers de comptes de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. C'est-à-dire qu'il notait toutes ses dépenses. Et véritablement, je peux vous assurer, pour un historien, c'est excessivement intéressant dans la mesure où on voyait un petit peu la part qui était consacrée, je donne un exemple, au tabac, par exemple, le tabac, ou à l'achat, ou à l'éducation des enfants. C'est extraordinaire, je trouve.
Oui, tout à fait.
Et tout est noté.
Oui.
Ça, c'est intéressant.
Oui.
Moi, je trouve que c'est aussi intéressant parce que c'est le quotidien des personnes. Et ce qui fait notre, ce qui vous intéresse, ce qui nous intéresse, c'est le quotidien des gens.
Oui, tout à fait. Il faut pas se mettre de barrières en se disant, ça, c'est trop ordinaire, etc., etc. Avec le recul du temps, en fait, rien n'est ordinaire.
Rien.
Et ça peut intéresser tout à fait des historiens du social, de la vie quotidienne.
Vous qui êtes un historien, rappelez-vous d'Emmanuel Leroy Ladurie. C'est lui qui a un peu relancé toute cette histoire du quotidien des petites gens.
Tout à fait.
Si j'ose dire des petites gens dans le bon sens du terme, avec tout le respect qu'on leur doit.
Oui, tout à fait. Donc des écrits qui paraissent encore une fois ordinaires, relatant des petits faits, finalement, peuvent entrer tout à fait dans le champ d'un historien et éclairer des pans entiers de la vie rurale ou de la vie domestique qui sont intéressants.
Alors, vous sélectionnez-vous les dépôts, oui, parfois ?
Alors, on regarde ce qu'on nous apporte. Alors, il y a d'abord le principe de pertinence territoriale.
Oui.
Ça, c'est un peu évident, mais nous collectons essentiellement des archives qui ont trait au Cher. Donc, si on nous apporte des documents qui traitent du Maine-et-Loire, on redirigera les archives vers nos collègues. Parce qu'il faut avoir, on a dit tout à l'heure, service de proximité,
oui.
Voilà, il faut avoir les archives en relation avec notre territoire. Et ensuite, on essaie d'avoir une approche un peu par typologie. Si on a collecté, par exemple, des archives de pharmacie à une ou deux reprises, peut-être c'est suffisant
Oui, tout à fait.
Si on a eu les archives d'un maréchal Ferrand à Dun-sur-Auron, peut-être que c'est un petit peu pareil que ce qu'on trouvera à Néronde, quoi.
Oui.
Voilà. Donc, on essaie d'avoir cette approche par typologie et on sélectionne, du coup, plutôt par ce biais.
Autre question. Avez-vous le projet, comme vous l'avez fait pour le centenaire de la guerre 14-18, de demander le dépôt d'objets témoignages pour la Seconde Guerre mondiale ou pour nos guerres coloniales? Et justement, je faisais allusion ce matin en vous rencontrant, qu'il y avait, semble-t-il, au niveau national, une volonté de collecter des témoignages.
Oui, alors tout à fait, c'est un de nos chantiers actuels en fait. C'est vrai qu'on a participé à la grande collecte 14-18 et qu'on a été surpris de tout ce qui était encore dans les familles et qu'on a trouvé des choses très intéressantes à ce moment-là. Sur la Seconde Guerre mondiale, on est passé plutôt par les associations de mémoire. On a fait une collecte qui pour l'instant n'est pas exhaustive. Par exemple, il y avait des chants qui commence seulement à être exploré. Je pense du côté des archives rapportées par les prisonniers de guerre, etc. C'était des phénomènes qui échappaient un petit peu au radar. On était concentré sur les résistants, les déportés. On avait moins de choses sur les prisonniers de guerre. Et alors maintenant, le sujet d'actualité réellement qui nous préoccupe beaucoup en ce moment, c'est la guerre d'Algérie, parce que la génération des combattants est en train de s'effacer. Donc on a deux fers au feu. On a la collecte de témoignages oraux auprès des combattants de la guerre d'Algérie. En ce moment, on s'intéresse particulièrement à la communauté harki, qui est assez bien représentée dans le Cher. Et puis, on a la collecte aussi de photos, parce que c'est une guerre qui a quand même été beaucoup photographiée. Enfin, pas la guerre, pas les faits militaires eux-mêmes, souvent, hein, mais toutes les scènes du quotidien, du soldat, des populations qu'ils rencontraient, etc. Il y avait beaucoup d'appelés du contingent ou de militaires de carrière qui avaient des appareils photos, et il y a beaucoup de témoignages. Ouais.
Est-ce que vous allez faire la même chose pour la guerre d'Indochine ?
Oui, tout à fait. Pour la guerre d'Indochine, on a beaucoup d'intérêt aussi. Alors, on a entré quelques archives quand on a travaillé avec la Fondation Maginot, qui avait elle-même collecté, s'était fait remettre des souvenirs de la guerre d'Indochine. Mais on a très peu de choses, en fait, et ça serait intéressant aussi... de faire le même travail qu'avec la guerre d'Algérie.
Alors c'est certainement, monsieur Laurent, je vous réinviterai, parce que c'est un sujet immédiatement délicat, la guerre d'Indochine. En effet, guerre d'Indochine, ce sont des engagés.
Oui.
La guerre d'Algérie, ce sont des appelés. Là, il y a tout un débat.
Oui.
Alors, justement, comment faites-vous connaître la richesse de vos archives?
Alors, pour se faire connaître, l'outil indispensable aujourd'hui, c'est Internet, parce que en fait, on se rend compte de plus en plus que ce qui n'est pas sur Internet n'existe pas dans l'esprit des gens, pratiquement.
Oui.
On numérise beaucoup d'archives. Hein, à l'heure actuelle, sur notre site Internet, archives18.fr, il y a plus de 2 500 000 images. Des documents qui ont été numérisés, mais on peut pas tout numériser, et au minimum il faut que nos inventaires, là où on décrit finalement la teneur des archives, il faut que ça soit très visible sur Internet. Et puis après on utilise d'autres moyens, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des expositions, ça peut être des émissions de radio comme aujourd'hui.
Exactement.
Pour se faire connaître.
Merci monsieur le directeur pour ces explications passionnantes. Merci à vous, amis auditeurs, auditrices, pour votre fidélité à l'émission Le Berry se raconte avec Agora Défense, et une bonne semaine.